à la fin de cette bracha, il utilise l'expression suivante. Il dit Berach Hashem Chelo Ufa'al Yadav Tirtze. Et ensuite, donc, il ajoute Machatzot Naim Kamav Umesanav Min Yokumun. Baruch Hashem Chelo. Le Rambam lit dans Baruch Hashem Chelo que Moshe Rabbeinu dit à la tribu de Lévi qu'Hashem bénisse l'armée de Lévi. A priori, l'armée de Lévi, c'est l'ensemble des gens qui sont au service du Beit HaMikdash, c'est-à-dire tous les Leviim. Par Lévi, on entend ici aussi, bien sûr, les Kohanim, qui sont une partie de la tribu de Lévi. Ufa'al Yadav Tirtze, que l'action des mains de Lévi soit agréée. Et qu'il ajoute effectivement que dans cette guerre, ceux qui s'opposent soient frappés et que les ennemis ne puissent même plus se relever. Rashi commente ce verset dans un davar acher, c'est-à-dire il y a deux chatim dans Rashi. Et dans le davar acher, il dit que Moshe Rabbeinu, par prophétie, a vu She'atidim Chashmonaye Uvanav Lilachem Im Haivanim. Il a vu que le Chashmonaï, c'est-à-dire Matityahu, et ses fils allaient livrer une guerre contre les Grecs. On a déjà vu plusieurs fois que par Grecs, on n'entend pas obligatoirement des gens qui viennent d'Athènes et des environs, mais des gens qui sont acquis aux valeurs grecques. Veitpalel alehem, et Moshe Rabbeinu a prié pour eux, pour les Hashmonaïm, le fiche hayu mu'atim, parce que ils seront très peu nombreux. Ça sera yud beit bnei Hashmonaï, les 12 fils de du Chashmonaï et Elazar. Et en face d'eux, il y aura, dit Rashi, Kamar Uvavot, c'est-à-dire plusieurs myriades de soldats. C'est pourquoi, dit Rashi, Moshe Rabbeinu a béni Chelo, l'armée de Chashmonaïm, justement, et il a prié pour que l'œuvre des mains de Hashmonaïm soit agréée. Ça c'est donc le Passouk et Rashi. Le Rambam dit que la tribu de Lévi, elle a été singularisée. Les gens de la tribu de Lévi ne sont pas du tout dans les affaires du monde. Ils doivent se réserver, se consacrer uniquement au fonctionnement du Beit HaMikdash et à l'étude et l'enseignement de la Torah. Et en particulier, la tribu de Lévi ne fait pas la guerre. Par conséquent, on se demande que fait ce verset qui parle de, en tant que verset, qu'est-ce que fait ce verset là qui parle de guerre, de chel. Alors il y a d'autres traductions du mot chel qui veut dire la puissance, y compris la puissance financière, matérielle, etc. Mais on voit bien que Rashi l'a lu en termes de guerre. Alors qu'est-ce que c'est que ce barer Hachem Chelo, si a priori la tribu de Lévi ne fait pas la guerre? Et puis aussi on peut se demander pourquoi, en fait, pourquoi le Rashi explique que Moshe Rabbeinu a donné une bracha à la tribu de Lévi, c'est-à-dire en fait aux Hashmonaïm, à des Kohanim, à une famille de Kohanim. La guerre de Hashmonaïm a été faite essentiellement parce que les Hashmonaïm sont des Kohanim, par des Kohanim. En vérité, c'est même pas les Kohanim, c'est une famille de Kohanim. La bracha, vous savez bien, ça veut dire, bracha veut dire multiplication, amplification. Ce que disent Maral, Nefesh HaChaim. Et donc cette bracha de Moshe Rabbeinu a pour conséquence que cette poignée de Kohanim peut vaincre la puissante armée grecque. Encore une fois, c'est les Grecs et les Syro-Grecs et les Juifs qui sont assimilés aux valeurs, qui ont accepté les valeurs grecques, puisque comme chacun sait, la guerre de Hashmonaïm, c'est une guerre civile. Bon, alors on entend. Et c'est en réalité la deuxième partie du verset qui est la plus surprenante. Koel Yadav Tirtse, agréé. Tirtse, ça veut dire, ça parle d'agrément. La notion de ritsui, la notion d'agrément, ça convient aux korbanot, la porte des korbanot, on demande à Hachem qu'il agrée ses korbanot. Dans notre tfila, dans notre prière, nous demandons à Hachem, retse, agrée notre prière, agrée notre teshuvah. Mais qu'est-ce que ça veut dire, agréer la guerre? Il y a d'autres endroits, effectivement, où il semble qu'il y ait un usage de... Enfin, dans Tehilim, il y a aussi cet usage de l'agrément par rapport à la guerre. Mais si déjà, pourquoi est-ce que ça porte... Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a donné une bracha uniquement au Hashmonaïm d'après ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné une bracha au Bnei Israël pour qu'ils réussissent dans la guerre de conquête de Yoshua, par exemple? Alors, regardons d'abord ce qu'il en est de la guerre, et ensuite on verra plus particulièrement ce qu'il en est de la guerre des Hashmonaïm. Alors, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a fixé des lois. Ces lois sont les lois de la nature. Ces lois-là, en fait, les lois de la nature, sont les lois par lesquelles la volonté d'Hachem est le plus fréquemment exprimée. Hachem se... Sa volonté s'exprime de toutes sortes, dans toutes sortes de situations, mais le plus fréquemment, c'est par les lois de la nature. Hazal disent qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui n'est pas un malach qui le frappe et qui lui ordonne de croître. J'ai déjà dit, je crois, que ce malach, on connaît son nom, il s'appelle hormone de croissance. Donc, partout, il y a des lois. Et Hachem dirige le monde à travers ses lois, et parfois sans tenir compte de ses lois. De ce fait, puisque c'est l'expression la plus fréquente de la volonté d'Hachem, l'homme doit s'efforcer d'en passer par la nature. Par exemple, il ne peut pas compter sur la manne pour sa parnassa, pour sa nourriture. puisqu'il sait que c'est Hachem qui a fixé la nature, que le monde fonctionne avec, disons, en apparence en tout cas, le principe de causalité, je prends des précautions. Donc l'homme doit agir, on pourrait dire, naturellement. Il y a un pasouk dans Sefer Dvarim qui dit « Uveracha bechol asher ta'aseh » Hachem te bénira dans tout ce que tu feras. La Gemara, elle dit, par exemple, dans Maseret Yuma, elle dit, bien que le feu du Mizbeach descende du ciel, il y a néanmoins une mitzvah, la vie mina idiot. Néanmoins, nous devons amener le feu nous-mêmes. C'est pas nécessaire, mais nous devons le faire. Donc, pour la parnassa, comme pour la guerre, il faut se préparer selon les voies des lois de la nature, si on peut parler comme ça. Et Hachem va agir à l'intérieur de cette préparation, il la fera réussir ou non. Donc, en général, l'homme peut attribuer ses réussites à son intelligence, à son savoir-faire, à son génie stratégique, à condition de savoir, qu'il n'ait là-dessus aucun doute, de façon absolument claire, que c'est Hachem qui lui a donné tous les talents qu'il a mis en œuvre. Et que ses actions ne sont qu'une espèce de cause intermédiaire, en quelque sorte, à travers laquelle Hachem, c'est-à-dire sa Hashgacha, sa providence, déverse sur lui toutes ses brachot, toutes ses bénédictions. Pasouk dit Ishamer lecha, c'est un pasouk toujours dans Dvarim, Ishamer lecha pen tishgach et Hashem Elokecha. Prends bien garde à ne pas oublier Hashem ton Dieu. Ve'amarta, et que tu pourrais en venir à penser et à dire même Kochi ve'otsem yadi, asali et achel hazé, que ma force, personne, c'est moi en quelque sorte, qui ai réussi, qui ai réussi dans cette guerre ou dans cette entreprise. Fais bien attention de ne pas tomber dans ce piège. Mais Zahar Tak et Hashem Elokecha, qui hou hanoten lecha koach la'asot chayim. Tu te souviendras d'Hachem ton Dieu parce que c'est lui qui te donne la force de faire ce que tu fais. Il y a ici une dracha du Ran. Le Ran, c'est un Rishon, un maître du Moyen-Âge. Il écrit, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des qualités particulières, pour parler par exemple, comme il y a des gens qui sont prêts à recevoir la chokhma, à recevoir la sagesse, et d'autres qui sont prêts à prendre des conseils. Alors, bien sûr, quelque chose sera vrai, que le riche, par exemple, peut dire, eh bien, c'est mon intelligence, C'est ma capacité à prévoir les choses, etc., qui m'a permis d'accéder à cette richesse. Im kol zeh, avec tout cela, imeyot she'akoach ha'u natua b'cha. C'est vrai, tu as cette qualité. Mais souviens-toi que cette qualité-là, elle t'a été donnée. Et d'où vient-elle cette qualité? C'est ça que le verset dit. C'est vrai que tu as fait les choses, tu as réussi, mais n'oublie pas qui t'a donné la capacité de réussir de cette manière-là. Qui t'a donné ce talent? Dans la guerre, c'est complètement différent. En général, on a vu qu'on a le droit de s'attribuer ses réussites, mais dans la guerre, c'est différent. Dans la guerre, l'homme doit savoir et il doit vivre en conséquence qu'il n'y est pour rien. Alors, ses efforts, son courage, c'est comme une sorte d'impôt que Hachem demande, mais le sort des armes ne dépend pas de tout cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de nature de la guerre. Ni la puissance des armes, ni le nombre de combattants, etc., ne sont ultimement absolument décisifs. C'est entièrement de l'ordre de ce que nous appelons la Siata l'Ishmaïa, l'aide du ciel. Alors, c'est vrai, et c'est encore plus vrai quand il s'agit des guerres d'Israël, où Israël est toujours un me'at, il est toujours le peu, moins nombreux, il est toujours le moins expérimenté, etc. Le pasouk, enfin, dans la suite des textes du Sefer Dvarim. Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu dit, « Shema Israël, écoute Israël, ata over ayom et hayarden, tu passes aujourd'hui le Jourdain, et tu vas la rechet goyim gdolim vatsumim mimek. Tu vas hériter de peuples qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants que toi. Am gadol varam, bnei anakim, un peuple très puissant, des descendants de géants. Asherata, yadata v'ata shamata. Tu as déjà entendu, et tu le sais bien, qui est-ce qui peut s'opposer à eux. V'yadata ayom ki Hashem elokecha, ou a ouvert le fanecha, mais tu sauras, tu dois savoir, aujourd'hui, c'est Hachem qui passe devant toi. Ou yashmidem, ou yafniem le fanecha. C'est Hachem qui va faire plier ces peuples devant toi, c'est Hachem qui va les détruire. Et de nouveau le Ran, dans une de ses drachot, dit, Kan lo amarakatuv, ici le verset ne dit pas, Ve'amarta bilvavcha kochi ve'otsem yadi yasali et achel hazeh. Là, dans ce cas-là, tu ne diras pas, c'est moi qui ai fait la chose. C'est mon savoir-faire, ma stratégie, etc. Ki eini mesupak beze. J'ai pas de doute, dit-il, que tu ne t'attribueras pas le mérite de cette guerre. Parce que ces peuples sont largement plus puissants que toi. Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils sont plus expérimentés. Tu n'as, à vue humaine, tu n'as aucune chance. V'yadata ayom ki Hashem ou itbarach ou yachniyem. C'est lui, c'est Hashem qui va faire plier les peuples en question. Toi, tu n'en as pas la possibilité. Donc là, dans la guerre, il n'y a pas de doute que tu n'y es pour rien. « pasuk dans Dvarim continue. Al tomar bilvavcha, ne dis pas dans ton cœur, lorsqu'Hachem, ton Dieu, aura chassé donc ces peuples devant toi, ne dis pas betzitkati, evyani Hachem, la rechet taretz azot. Bon, pas de doute que tu ne vas pas te raconter des histoires que c'est ta puissance militaire qui a gagné. Mais ne viens pas non plus te raconter que c'est parce que tu es tellement tzaddik, tu es tellement parfait, tellement juste, que c'est pour ça qu'Hachem a fait plier ses peuples devant toi et que tu vas hériter de ce pays. Lo betzidkatcha ou biyosher levavcha ataba la rechet et artsam. Ce n'est pas par ta tzidkout, ce n'est pas non plus par la droiture de ton cœur que tu vas hériter de ce pays. Et là-dessus, le Ran continue. Et le Ran dit, « Eni mesupak beze shetomar shebekochacha atzamta mehem. » Il n'y a pas de doute, tu ne vas pas dire que tu as été plus fort militairement qu'eux. Ils sont beaucoup plus forts que toi. Mais je crains que tu ne te racontes des histoires, que tu ne penses dans ton cœur que c'est moralement que tu leur es supérieur, c'est ta perfection morale qui te vaut que tu gagnes. Alors le pasouk vient dire, surtout ne fais pas une chose pareille. Ki am keshe oref ata. Tu es ce fameux peuple à la nuque roide. Tu n'obéis pas. Tu t'entêtes. Mitzat zchutcha, si on devait mesurer les choses, d'après ton mérite, lot yé raoui leze. Tu ne mérites pas ces victoires. En d'autres termes, c'est l'alliance avec Hachem et non nos petites actions, que ce soit militaire, que ce soit morale, qui fait la victoire. C'est cette alliance qui fait que nous pouvons nous tenir debout, Bichlat, devant les ennemis. C'est cette alliance qui nous a donné le pays. Alors, puisqu'on parle de cet héritage du pays, alors on est obligé de revenir au tout début de la Torah. Vous vous souvenez, Amar Rav Yitzchak, lo haya tzarich latchil et haTorah ela mehachodesh hazeh lachem. On n'aurait pas dû commencer la Torah par Bereshit. On aurait dû la commencer que dans la parasha de Bo, à Chodesh Hazeh Lachem, par le don de la mitzvah de fixer le mois. La mitzvah d'être Mekadesh, le Chodesh, de décider le début du mois. C'est un livre de mitzvot. Ça, c'est la première mitzvah que nous avons reçue. Cette mitzvah, nous l'avons reçue en Égypte encore. Cette mitzvah, nous l'avons reçue alors que nous n'étions pas encore libérés de Paro. Nous étions encore à ce moment-là esclaves de Paro. On ne travaillait plus pour lui depuis les Makotes. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Paro a supplié Moshe Rabbeinu de quitter l'Égypte, de partir. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas dit explicitement que nous ne sommes plus tes esclaves. On avait besoin d'une déclaration de Paro qui dise explicitement, vous n'êtes plus mes esclaves. Vous êtes libres. La mitzvah de Chodesh Hazeh Lachem, la mitzvah de fixer le temps, c'est-à-dire de fixer le calendrier plus exactement, cette mitzvah nous a donc été donnée avant que nous soyons un peuple, avant que nous sortions d'Égypte. On aurait dû commencer la Torah par ça. Alors, mais pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit? Quel est le sens de cette partie de la Torah entre Bereshit et Hakodesh Hazeh Lachem? Qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette partie de la Torah? C'est toute la Genèse et le début de l'Exode. C'est pas rien. Alors, vous connaissez, Rachid rapporte sur Rav Yitzhak. Sheim yomru umot haolam l'Israël, que si les goyim disent aux bnei Israël, ils leur disent, vous êtes des bandits, des voleurs, parce que vous avez conquis le pays des sept peuples. Il y avait sept peuples en Canaan quand Yoshua est entré avec les bnei Israël en Eretz Canaan, qui s'appelle Eretz Israël. Alors, les bnei Israël vont répondre, Haaretz kula shel HaKadosh Baruch Hu. La terre appartient entièrement, ce pays appartient entièrement, toute la terre d'ailleurs, appartient à Hachem. Ubra, il l'a créé, et il la donne, la chair Yashar Beinav. Il la donne à qui lui apparaît droit, enfin, à qui il veut. Virtsono, ça a été sa volonté de vous la donner, cette terre. Et maintenant, c'est sa volonté de la prendre, de vous la prendre, de nous la donner à nous. Évidemment, ce texte est quasiment incompréhensible. Est-ce que les peuples en question ne connaissent pas cette règle? Nous disons kibush milchama, shmei kibush. C'est-à-dire qu'une conquête qui a été faite par la guerre est réputée une conquête. On a conquis ce pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et d'autant plus que eux, les Cananéens qui sont sur cette terre, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Vous savez bien, on en a déjà parlé, les fils de Noach se sont partagés le monde. Et la terre de Canaan appartient à Shem, aux descendants de Shem. Et Canaan, comme chacun sait, c'est un descendant de Ham. Comment les gens de Canaan sont-ils là? Ils ont fait la guerre. Ils ont gagné la guerre. Ils ont pris possession de la terre. Ils sont là. Ce sont les règles de la guerre. En fait, pour, contre, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne le monde. Depuis que le monde est monde. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Vérité, qu'est-ce qui, même cette réponse, ça les intéresse? Ça ne les intéresse pas. Ils se moquent pas mal de cette réponse. Ils ont dit qu'on était des bandits, mais on peut répondre tout ce qu'on veut répondre, ça ne les fera pas changer d'avis. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Il faut commencer la Torah à cause de ça. Vous vous rendez compte? Il faut toute la Genèse et le début de l'Exode. Pourquoi? Pour donner une réponse à l'égoïme qui n'en ont rien à faire. et qui feront rien du tout de cette réponse. Et là, la réponse, elle n'est pas pour eux, elle est pour nous. Nous, on doit savoir, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Dama Shetashiv Lapikores, sache ce que tu dois répondre. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il faut répondre, mais tu dois savoir ce qu'il faut répondre, pour que ce qu'ils disent n'ait pas d'impact sur toi, parce que tu sais la vérité. Eux ne l'entendent pas, c'est pas notre problème. C'est pas ça le problème. Quand, dans cette accusation, les Oumot HaOlam n'attendent pas une réponse. La Torah nous dit ici que être sur cette terre, ça crée des obligations, et que, en tout cas, sur cette terre-là, on n'applique pas simplement les lois de la guerre. Il faut savoir si les gens qui vivent sur cette terre méritent de vivre sur cette terre. Est-ce qu'ils sont en accord avec ce que représente cette terre, avec ce que demande cette terre? C'est une terre qui est susceptible de vomir ses habitants. Les nés Israël ont été vomis par la terre déjà deux fois. Mais ce que dit le Midrash Rabba un peu plus loin, dit justement, la terre est à Hachem, et ce n'est pas comme vous le pensez que ça fonctionne avec des règles de la guerre. La terre, le monde n'est pas gouverné par des bandits. Enfin, des fois on se demande, mais c'est une leçon essentiellement pour nous. En d'autres termes, ça dépend toujours de la reconnaissance de ce qu'Hachem appelle Koach Ma'asav, qui guide de l'amour. C'est-à-dire ce texte qui va depuis Bereshit jusqu'à Chodesh Hatzelachem. Ça s'appelle Koach Ma'asav, qui guide de l'amour. Ça veut dire Hachem dit au Bnei Israël, c'est moi qui décide de qui est sur cette terre. Et surtout, ne vous racontez pas d'histoire, ce n'est ni votre savoir-faire économico-militaire, ce que vous voulez, ni vos mérites moraux qui ont fait que vous avez gagné. C'est parce que j'ai décidé de donner cette terre, et maintenant, vous, ce que vous devez faire, c'est être capable de vous y maintenir. C'est ça le problème. Que je vous ai raconté, là, je me suis beaucoup inspiré d'un sefer qui rapporte un enseignement de Rav Goldwirth, qui est un talmid chacham de la génération précédente. Koach ma'asav yigid l'amo. Je préfère le lire un peu différemment. Par à lui, mais je crois que Koach Ma'asav, se lit comme étant Koach, c'est toujours ce qui est potentiel par rapport à l'actualisation de ce potentiel, la réalisation de ce potentiel. Ce qui est le koach, c'est ce qui n'est que potentiel. Koach ma'asav, qui décrit ce que c'est que cette partie de la Torah qui va de Bereshit à Chodesh Hazelachem. Ça veut dire, avec ce qu'on apprend dans cette partie de la Torah, ça va nous permettre de mieux comprendre ou de comprendre un peu la suite de la Torah. C'est-à-dire la vie du clan Israël à partir du Sinaï. On a reçu la Torah et on doit vivre en fonction de cette Torah. Mais pour comprendre pourquoi on a reçu la Torah, qu'est-ce qui s'était passé, etc., on a besoin de savoir ce qu'il y avait avant. Donc, ce texte-là joue le rôle du potentiel, c'est-à-dire de la lumière, de l'énergie pour la Torah qui a été donnée au clan Israël au Sinaï. Le Sinaï, ça commence avec la sortie d'Égypte. Ça commence avec cette première mitzvah, Chodesh Hazelachem. Bon, ça culmine avec le Matan Torah. Mais ça commence à ce moment-là, la sortie d'Égypte, elle, c'est le commencement du Sinaï. Dans la Haggadah de Pessah, ça on en a déjà parlé, on nous parle d'Abraham Avinu. Et le rédacteur de la Haggadah de Pessah présente Abraham Avinu comme un pion complètement manœuvré par Hachem. Si vous regardez le texte, vous verrez, c'est Abraham Avinu qui est présenté dans la Haggadah de Pessah. Il n'a aucune épaisseur psychologique. C'est un pion. Hachem dit, voilà, j'ai pris Abraham, je l'ai amené là, etc. Je lui ai donné ça, je lui ai donné Yitzhak, je les ai amenés là. Des pions. Alors que dans la Torah, on voit Abraham Avinu très actif. C'est un autre éclairage d'Abraham Avinu. C'est l'éclairage qui manque pour comprendre complètement le rôle d'Abraham Avinu par rapport à la sortie d'Égypte. Pour savoir comment Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc., comment ces gens-là doivent être compris pour qu'on comprenne quelque chose à ce qui va se passer au moment où on va sortir d'Égypte et par la suite. Par exemple, vous savez très bien qu'il y a des mitzvot qui sont présentés dans la Torah en disant je t'ordonne d'aimer, de respecter l'esclave par exemple ou l'étranger parce que toi tu as été esclave en Égypte. Le texte, la Torah dit clairement que l'esclavage, donc là la dernière partie de ce potentiel-là. La dernière partie, c'était l'esclavage en Égypte. Il nous a qualifiés pour certaines mitzvot. Peut-être pour toutes les mitzvot d'ailleurs. Donc, pour comprendre pourquoi on a certaines mitzvot, pourquoi on nous demande à nous de nous comporter de certaines manières, on nous le demande, on peut nous le demander parce que on a vécu de telles auparavant, les ancêtres ont vécu, c'est on peut dire que c'est une épigénèse, ça peut être ce que vous voulez. On a vécu de telle manière que maintenant on est qualifié pour certaines choses. Donc, Hashem nous a donner en quelque sorte deux parties dans la Torah. Une partie qui est en fait l'énergie, la lumière, qui permet d'éclairer, qui permet de comprendre comment fonctionne le Klal Israël à partir de Matan Torah. À partir du moment où le Klal Israël existe comme peuple. Vous savez bien qu'avant le Sinaï, on n'est pas un peuple, on est un amas de personnes, si on peut parler comme ça, mais on n'est pas structuré en peuple. C'est ce qu'au pied du Sinaï que la Torah dit que le Klal Israël a campé. Jusque-là, c'était toujours dit au pluriel. Ils ont campé. C'est-à-dire, les gens ont campé. Donc maintenant, on parle au singulier, parce qu'à ce moment-là, au pied du Sinaï, pour pouvoir recevoir la Torah, ou parce qu'on va recevoir la Torah, on est devenu un peuple. On est sorti d'Égypte, on n'était pas un peuple. On était des individus, avec des traditions tribales, si vous voulez, organisées encore un peu en tribu, mais on n'était pas un peuple. On est un peuple que grâce à la Torah, que à partir du don de la Torah. Et tout ce qui a été dit avant est en quelque sorte un potentiel pour la suite. En fait. Et même par la suite, cette idée qu'Abraham Avinu est un pion. Un des grands, un des derniers grands kabbalistes de l'école du Gaon de Vilna, le Lechem, va construire une théorie dont on va dire quelques mots à partir du Midrash Tanhuma dans la parsha de Vayeshev. Le Midrash part du pasuk Yosef Urad Mitzrayma. A priori, Yosef a donc été descendu en Égypte. Aux mains des caravaniers qui vont l'amener en Égypte et qui vont ultimement le vendre à Potiphar. Et le Midrash dit, le Midrash prend un pasouk dans Tehilim, un pasouk qui dit le chou, c'est Tehilim 66, le chou ou reou. Mif'alot Elokim, Nora Alila Albene Adam. Venez regarder les œuvres d'Elokim. Terrifiant de prétexte, avec ou contre les hommes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors le Midrash dit, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, a priori c'est Yoshua ben Korcha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Afanoraot shata mevi aleinu. Les choses terribles que tu amènes sur nous. Be'alila at mevia. Tu les amènes avec des prétextes. Alors, le mot Alila, ceux qui ont qui prient avec nous Moussar Sfarad connaissent ce mot Alila. À Kippour, Kel Nora Alila, c'est dit des dizaines de fois. Donc, je sais que Kel est Nora Alila. Il est terrible, terrifiant dans ses prétextes. Le mot Alila peut vouloir dire œuvre, agissement, exploit, à action éclatante, prétexte, mais aussi manipulation perverse. Ça a la même racine que Alul, qui veut dire conséquence prévisible, et, ou que Ila. Ila, Ilot, c'est la cause des causes, dans la chaîne du Rambam. Ça veut aussi dire des fois fourberie, donc, ruse. Encore une fois, prétexte. En général, quand on parle d'Hachem, on veut dire qu'il s'agit d'actions éclatantes, de perfection. Ici, écoutez. Béal Bo'ure, viens. Kishébara, Kadosh Baruch Hu et Aolam. Lorsque Hachem a créé le monde, Miyom Arishon Bara Malach Hamavet. Dès le premier jour, il a créé l'ange de la mort. Certains disent qu'il a été pensé le premier jour et seulement créé le deuxième jour, mais pour les besoins de la démonstration, ça n'a aucune importance. D'où est-ce qu'on le sait, dit ce midrash-là, parce que c'est marqué dans le pasuk, le chosher al pnei tehom, le chosher, l'obscurité, les ténèbres, ze malach hamavet. Ve Adam, et l'homme, a été créé le sixième jour. Ve alila nitla bo, sheu evi et amita laolam. Et on a utilisé un prétexte pour lui coller la responsabilité d'avoir amené la mort dans le monde. C'est marqué, ki miyom acholcha mimenu mot tamut. Et Amar Adam, lifnei Akadosh Baruch Hu, Adam a dit devant Hachem, il lui a dit, Ribono shel olam, ad shelo barata olamcha. Avant que tu ne crées ton monde. 2000 ans avant, il y avait une Torah. Tu as créé une Torah. Et dans cette Torah, il est écrit, Zot ha Torah, Adam ki yamut be'ohel. Les mitzvot de l'homme qui mourra dans une tente, et on parle là-bas des problèmes de pureté, d'impureté. Ilulei shit kanta mavet la briot. Aïta koteva, car. Si tu n'avais pas préparé la mort pour les créatures, est-ce que tu aurais écrit ça dans un Torah? Évidemment, ça présuppose qu'il y a la mort. Adam qui a mot Boel, 2000 ans avant. Et là, Batali Klotbi et Alila. Mais tu prends prétexte de la faute que j'ai faite. J'ai fait une faute, c'est vrai. Mais tu prends prétexte de cette faute pour me coller la responsabilité d'avoir amené la mort dans le monde. Vechen, Atamotse, Shamar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, « Im yirei ish ba'anashim ha'ele ador hara haze et ha'aretz ha'tova » Hashem a proclamé que personne, aucun ish dans cette génération ne verrait la terre d'Israël. On dit « Ish ze Moshe » Ok, « Va'ish Moshe anav » C'est dans la Torah que « Ish » c'est Moshe. Et c'est marqué dans la Torah, t'as tiré Asher et c'est le pharaon. Quand Moshe Rabbeinu n'a pas voulu aller délivrer les Bnei Israël parce que il ne voulait pas empiéter sur pour le travail que son frère Aaron avait fait. Aaron était sur le terrain, Aaron s'est occupé du clan Israël, il était le leader du clan Israël en Égypte. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas arriver, là, lui, le planquer, quoi, quasiment, le planquer au palais de Paro. Il sort du palais et maintenant il arrive. Je ne peux pas faire ça à mon frère. Alors finalement, Hachem lui a dit, tu te demandes effectivement ce que je vais faire, etc. Maintenant tu vas voir tout ce que je vais faire à Paro. Les Chazal disent, le milchemet paro ataroe, ve'en ataroe v'milchemet shloshim ve'echad melachim. Tu vas voir ce que je vais faire en Égypte, la guerre contre Paro. En Égypte, il y a le passage de la mer. Mais tu ne verras pas ce que je ferai au moment de la conquête d'Eretz Israël, de la guerre contre les 31 rois qui avaient une adresse en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que quand il leur a dit Shimuna Amorim, quand Moshe Rabbeinu s'est énervé contre les Bnei Israël qui réclamaient de l'eau, et que finalement il a frappé le rocher, comme vous savez, Amar lo Hakadosh Baruch Hu, Lachen, pour cette raison, l'otaviu et akalazé. C'est pour cette raison, ni toi ni Aaron vous n'amènerez le peuple en Israël, alors que c'était déjà décidé depuis toujours. C'est ça. Nora Alila. Terrifiant dans les prétextes qu'il prend. Le chénou Omer de Yosef. Vayirou Echav ki oto ahav aviem. Les frères ont vu que leur père préférait Yosef. Ils l'ont vu avec la cause de, en particulier avec la ktonet passim, avec la tunique qu'il lui a faite. Et à cause de cette tunique-là, ça a entraîné que toutes les tribus sont descendues en Égypte. Et Rav Yudan dit, Aya kadosh baruch hu mvakesh lekayem gzerat yado ateda, vevi alila lechol dvarim elu. Rav Yudan dit, à kadosh baruch hu, il voulait accomplir la promesse qu'il a faite au moment de l'alliance entre les morceaux à Abraham Avinu. Il lui a dit, Yadoa Teda, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays, ils sont étrangers dans un pays qu'ils ne connaissent pas, et on va les réduire en esclavage, on va les faire souffrir, etc. Et à la fin, je ferai sortir les Bnei Israël de là-bas, Bichrouch Gadol, etc. Et donc, parce qu'Hachem voulait cela, dit le Midrash. Alors Hachem a fait en sorte, il a pris un prétexte, à cause, il a fait que chez Yaakov et Yosef, que Yaakov aime Yosef, que les frères le haïssent, qu'ils le vendent aux Ishmaélim, qu'ils le descendent en Égypte, que Yaakov entende finalement que Yosef est vivant en Égypte. Qu'il descende, lui, avec tous les Shvatim, et qu'en fait, il soit réduit en esclavage là-bas. Donc, Yosef Hurad Mitzrayma. Ne dit pas, Yosef a été descendu en Égypte. Li, Horid et Aviv Veashvatim le Mitzrayim. Yosef a fait descendre son père et les Shvatim en Égypte. On lui colle à Yosef la responsabilité d'avoir fait descendre, d'avoir réduit en esclavage les tribus et descendre Yaakov Avinu en Égypte. Kadosh-Bourou voulait réaliser la promesse. Alors, Evi Alila, le Kholat Varim. ils sont descendus et comme ça, il a pu, cette promesse, il a pu la réaliser. Les Bnei Israël ont payé le shtar, comme dit le... Ils ont payé la dette, en fait. Non, à Lila. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Yosef est descendu en Égypte. Il a été transporté en Égypte. Hein. Et on lit, Yosef a fait descendre tout le monde en Égypte. Il a fait descendre Yaakov Avinu. Il a fait descendre les Shvatim. Ils se sont retrouvés en exil. Trouvés en esclavage. Sur ce midrash-là, le Lechem dit tout est prévu, y compris ce qui va se faire par le choix des hommes. Pour lui, c'est un commentaire de ce midrash. Dans la Gemara, dans Brachot, Eliyahu Hanavi et puis Moshe Rabbeinu disent à Hachem, les hommes ne sont pas fautifs. Qui est-ce qui a créé le Yetzer Hara? C'est toi. C'est toi qui as fait fauter les Bnei Israël. Tu as créé le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il vous fait? Et vous savez bien, c'est bien connu, Moshe Rabbeinu a reproché à Hachem, il a dit, tu fais tout un procès aux Bnei Israël parce qu'ils ont fait un veau d'or. S'ils n'avaient pas eu tellement d'or, ils n'auraient jamais pu faire un veau d'or. Qui est-ce qui leur a donné tellement d'or? C'est toi. Alors, cette théorie-là, que tout est prévu, y compris ce qui se fait par le choix, avec le choix des hommes, c'est pas une théorie de la prédestination ou de la grâce. On n'est pas dans le protestantisme ici. Chazal disent, « Akol bidei shamayim. » Tout est décidé par le ciel. Tout. « Chutz miyirat shamayim. » À l'exception de la crainte du ciel. Ça veut dire à l'exception de comment les hommes vont-ils réagir dans les situations dans lesquelles ils vont être placés. Et la Yirat Shamayim, c'est Reshit Chochma. Reshit Chochma Yirat Hashem. C'est le commencement de la sagesse, cette Yirat Shamayim. C'est-à-dire que la Yeshua, le salut, est obtenu par la Chochma, par la connaissance. Connaissance des mitzvot, la connaissance des actions, par la connaissance de ce qu'on fait, de soi-même, par la possibilité, grâce à cette connaissance de soi-même, de faire tshuva. C'est en cela que les choses ne sont pas du tout déterminées de façon finale. Oui. Tout est dit au départ. Tout est prévu, y compris ce qui va se faire à travers le choix des hommes. Mais ce n'est pas qu'on ne peut rien faire. On est dans un mektoub ou bien dans le cas de la tragédie grecque, si vous voulez. D'après, en suivant son maître, le Gaon de Vilna, le Lechem rapporte, en fait, tout ça à une sagesse, à une chochma, justement, qui précède la création, qui est d'avant la création du monde. cette Alila dont parle le Midrash ici, terrifiant de Alila, le prétexte, c'est presque on a l'impression de mauvaise foi avec les hommes. Il dit, le Lechem dit en fait que il y a un monde qui s'appelle le monde du Tohu, qui s'appelle le Tohu Vavohu de Réchit, de la création. Ce monde du Tohu, c'est aussi un monde qu'on appelle le monde des points, le monde des Nekudot. Ce monde-là, il est la résultante, on ne va pas, parler de ça maintenant en tout cas, la résultante de ce qu'on appelle la brisure des vases. Il y a quelque chose donc, qui va amener le mal, c'est justement cette séparation. Le monde des points, c'est-à-dire justement, il n'y a pas d'unité. Quand c'est des points. Et donc il y a un mal qui est quasiment inéluctable, qui résulte justement de ce monde des points où il n'y a pas d'unité. Pour le Lechem, il y a un mal original ou originel qui vient en fait d'une. De la dualité qu'il y a entre la Gvura et le Chesed, c'est-à-dire le principe d'expansion et de restriction. Le Chesed, c'est ça, et la Gvura, c'est ça, ce mouvement-là. Il y a donc, à ce moment-là, si vous voulez, il y a une histoire qui est un peu moins connu, c'est que il devait y avoir 1000 générations avant le don de la Torah. Comme vous savez, il n'y en a eu que 26. Donc c'est 974 générations, là, qui appartiennent au monde justement du Tohu, au monde des points. Ces 974 générations, la Gemara, elle considère que ces générations n'ont pas été créées. Le Midrash, il pense qu'elles ont été créées, mais ces générations ont été saupoudrées en quelque sorte sur toutes les générations qui sont venues après. Ce sont les gens qui sont les méchants, les violents dans toutes les générations. L'origine du mal est donc dans un processus originel qui est absolument nécessaire. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça veut dire que ce déterminisme, il est compréhensible. C'est vrai que la sagesse, cette chokhma de primordiale, si vous voulez. Cette sagesse, elle est cachée, c'est ce qu'on appelle chez nous le sod, elle est dans le sod. Cette sagesse, on ne peut pas la posséder. Comme Shlomo HaMelech a dit, c'est impossible de la posséder. Mais, d'une certaine manière, il faut faire connaître les halilot, dit le Teilim. Le Navi le dit aussi, Eshayahu le dit la même chose. Il faut faire connaître les halilot. Faire connaître les œuvres. Ici, on peut dire que c'est les œuvres d'Hachem. Mais avec l'ambiguïté, justement, qu'il y a dans ce mot halilot. Pourquoi on n'a pas dit faire connaître Maasav ou etc. Halilot. la connaissance des œuvres, la connaissance des œuvres divines, en fait. C'est plus, en fait, que la seule observation des prodiges de la nature. Mais c'est surtout dans ce contexte, ici, c'est la compréhension des voies compliquées par lesquelles se déroulent, justement, ces halilotes dans lesquelles les hommes sont pris. Ils sont coincés, comme M. Rabbeinu est coincé, Adam Arishon, Yosef, tout le monde est coincé ici. Alors qu'ils se perçoivent comme des agents de l'histoire. Ils se sentent responsables. Effectivement, ils sont responsables. Mais même le côté terrible, terrifiant, qui est associé justement à ces halilotes, il doit aussi être compris par référence à cette connaissance. Et donc le sens premier ici s'applique à ce qui nous c'est ce qui est terrifiant, ça nous inspire de la crainte, de la ira. Mais cette crainte d'Hachem, dont je vous ai dit que c'est Réchit Chochma, c'est le commencement de la sagesse, c'est pas du tout la peur du châtiment ou la peur du lendemain, etc. Dans ce monde-ci ou dans un autre monde ou dans le monde à venir. Dans le Zohar, on dit que cette peur, elle désigne en fait un sentiment de fascination effrayée. Devant la puissance de la nature, devant la puissance infinie, devant laquelle rien ni personne, tsunami, tout ce que vous voulez, ne semble pouvoir exister. Le mot « Nora », ici, qui est terrifiant, terrible, au sens de cette chose-là qui inspire la crainte en question, s'applique bien, mais à ce qui suscite chez nous cette admiration, mais pleine de crainte. Le Zohar dit, il n'y a de crainte que là où il se trouve de la perfection. Et tout lieu où se trouve de la perfection est appelé Nora, terrifiant. Donc, quand on dit de l'œuvre d'Hachem qu'elle est terrifiante, ici, c'est dans le sens de... On se sent écrasé par cette perfection. On peut comprendre qu'effectivement, c'est un moteur de la connaissance, de comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. La perfection, c'est justement la façon dont... ou la complexité des choses, telles qu'Hachem les a réalisées, en fait. Le Lechem dit donc que la chaîne qui mène au monde, qui mène dans notre monde le mal, elle commence même avant la brisure des vases, avec cette dualité dont je vous ai parlé, de Chesed et de Gevura. Ces générations, ces 974 générations, elles ne prennent pas de place dans le temps. C'est pour ça que la Gemara peut dire qu'elles n'ont pas été créées. Mais c'est justement une des manifestations du caractère Nora. Le caractère Nora fait référence à des choses qui nous dépassent complètement, qui sont cette super perfection. Choses qui appartiennent quasiment à un autre monde. Dans le temps, ça s'exprime donc par le fait que ces 1026 générations ne prennent pas de place dans le temps. Et on sait, il y a autre chose qui prend pas non plus de place. Vous savez bien que le Aaron HaKodesh dans le Beth Amikdash est nomina minyan. Ça veut dire il n'y avait pas la place. Quand on fait la description du Beth Amikdash, il n'y a pas la place pour mettre le Aaron à Kodesh. On dit donc que le Aaron ne prend pas de place. Le Aaron à Kodesh, dans le Betamigdash, il ne prenait pas de place. Il avait 10 de large, on le sait dans l'histoire de Shlomo HaMelech, il ne pouvait pas faire entrer le Aaron de l'extérieur. Mais quand on le met à l'intérieur, il ne prend pas de place. Le mot Aaron, Aleph Resh Vav Nun, c'est le mot Noah écrit à l'envers. C'est ça. C'est ces choses qui nous dépassent complètement, qui ne prennent pas de place ni dans le temps ni dans l'espace. C'est évidemment quelque chose de complètement différent. C'est ça qui est à l'œuvre en réalité. C'est ça, Noah, ces prétextes terrifiants, où on ne comprend pas du tout. On n'arrive pas à comprendre. Mais néanmoins, on est responsable de choses qui nous dépassent complètement. Mais il y a des indications quant à notre responsabilité de choses qui nous dépassent. Pour terminer, je veux juste rappeler que nous sommes responsables de la météo.
Donc,
il n'y a pas de donc. On est responsable de la météo parce que la Gemara dans Souka, l'explication que donne Rashi, c'est que les mouvements qu'on fait avec le loulav, c'est les mouvements pour chasser les mauvais vents et les mauvaises pluies, et ramener les bons vents et les bonnes pluies. Donc c'est à Soukhot où la location d'eau pour le monde est décidée. D'accord. Nous sommes en charge de choisir les vents et choisir les pluies. Donc évidemment que ça nous dépasse complètement. Mais on est en charge de ces choses-là juste pour savoir qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Bon, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à trouver plein de choses pour lesquelles nous sommes responsables et qui nous dépassent largement.